Chapitre 3. Appartenu à d'autres. Voilà presque 3 semaines qu'elle courait le guilledou en se levant à l'aube, en continuant de travailler, en se couchant avec les poules, en picorant à peine et en s'endormant déçue. C'était minant. Mathilde soupirait. Mais qu'est-ce qu'elle s'était encore imaginé? Et quel rata infâme Cupidon lui servait-il de nouveau? Hein? Le fessu là-haut. C'était quoi encore ce fricot tout pourri? Tous les lieux auxquels elle avait cru, ou qui l'avaient inspiré, tous les conseils, toutes les recommandations, toutes ces ondes de tam-tam envoyées d'une porte de service à l'autre, tous ces « bonnes chances » ou ces « tu dis qu'il y avait comme des auréoles sur la lame? C'est japonais, ça. Si j'étais toi, je commencerais par les japonais. » Oui, tous ces bons tuyaux et ces faux espoirs, toutes ces descriptions si chiches, et ces questions tellement énormes. Pardon, monsieur, je cherche un cuisinier, alors je ne sais pas du tout comment il s'appelle, mais il est un peu enrobé, ça vous dit quelque chose? Tous ces yeux écarquillés, ces hochements de toque désolés, ces bras ballants, ces gentils renvois dans les cordes ou ces méchants envoyés boulés, toute cette vie à l'envers, ces réveils à pas d'heure et ces déceptions continuelles, tout cela, tout. Tout était vain. Mathilde vacillait. Mais où se cachait-il, bon sang? Travaillait-il vraiment dans ce quartier? C'était peut-être un cuisinier du dimanche? Ou un employé de cantine? Ou de restaurant d'entreprise? Ou un dangereux mytho bardé de couteaux? Ou un gentil rêveur qui n'avait pas de suite dans les idées? Et pourquoi ne l'avait-il jamais rappelé, au fait? Parce qu'il était déçu? Vexé? Rancunier, amnésique? Parce qu'il ne savait pas lire? Parce qu'elle n'était pas à son goût, ou qu'il la croyait encore maquée à son ratatouilleur de rimes? Mathilde doutait. Et puis, existait-il? Avait-il seulement existé? Peut-être qu'elle avait tout échafaudé? Peut-être que la lettre n'était plus dans son enveloppe depuis des années? Peut-être qu'un ou une autre l'avait lue bien plus tôt? Peut-être que les mots l'avaient baisé encore une fois. Tiens, à propos de mots, c'était dans cette rue-là, il y a des années, elle l'avait oublié, mais ça lui revenait à l'instant, que son écrivain en herbe s'était trouvé pâle un soir d'hiver. Pâle et tout ému, parce qu'il avait reconnu au loin la silhouette d'un vieux jeune homme qui s'engouffrait dans la porte à tambour de cet hôtel en face. Il avait blêmi, l'avait retenu par le bras, et s'était tu un long moment avant de répéter à plusieurs reprises et sur tous les tons de l'extase possible « Bernard Franck ? C'était Bernard Franck ? Oh là là, Bernard Franck, tu te rends compte ? C'était Bernard Franck ?» Non, elle ne se rendait pas compte. Elle avait froid et voulait prendre le métro. Mais de le sentir aussi transi qu'elle l'avait ému. « Tu veux qu'on y aille ? Tu veux le saluer ? J'en serais incapable. » Et puis, c'est un palace, tu sais. Je n'aurais même pas de quoi t'offrir une olive. Et pendant tout le trajet retour, il l'avait bassinée avec ça. Son esprit, sa culture, les livres formidables qu'il avait écrits, son style, son flegme, son élégance et patati et patata. Et moi, sabir, caquetage et logoré du plumitif exalté, acte 2, scène 3. Elle l'écoutait babiller d'une oreille distraite en comptant le nombre de stations qu'il leur restait. Et puis, à un moment, il avait ajouté que cette ombre à l'écharpe blanche avait été le meilleur ami de Françoise Sagan. Qu'ils avaient été jeunes, riches et beaux ensemble. Qu'ils avaient lu, écrit, dansé, joué au casino et fait la bringue ensemble. Et ça elle s'en souvenait. Ça l'avait laissée bien rêveuse. Dans un tunnel sous la terre, un soir glacial de novembre, elle avait collé son nez à la vitre pour ne plus se cogner à son terne reflet et avait songé à ce que ça avait dû être de faire la chouille avec Sagan. Oui, ça lui parlait. Et elle regrettait, à présent, de n'avoir pas eu l'audace de le suivre dans son luxueux cocon. Lui, l'ami des Gatsby. Main dans la main et en silence, ils avaient écopé ce soir-là leurs doutes, leurs rêves, et leurs regrets dans un boyau de la ligne 9. Et Bernard Franck était mort le lendemain. Bonjour, chagrin. Mathilde freina. Les palaces. Elle avait oublié les palaces. Quelle gourde. Elle mit pied à terre, observa le balai des concierges qui s'agitaient autour de sublimes berlines immatriculées dans les paradis fiscaux, s'accouda à son guidon et, éberluée, salua une fois encore la roublardise et la toute-puissance de la vie. Parce qu'il était là. Bien sûr qu'il était là. Derrière cette grande façade en pierre de taille, dans cet hôtel inabordable, rue du Faubourg de Saint-Honoré, faiseur de miracles et saint patron des gourmands. Il était là, et les mots, elle était bien obligée de l'admettre, avaient toujours mené la danse. C'était eux qui les avaient présentés l'un à l'autre, c'était eux qui les avaient semés, et c'était encore eux qui allaient les réunir. Ainsi, c'était vrai. La littérature déchirait, et elle n'avait pas toujours raison. Elle reconnaissait ses torts avec soulagement, et son amour de destructeur de jeunesse se disculpait enfin. Peu importait qu'il les eût servis avec plus de tendresse qu'il ne l'avait aimée, elle. Il avait tenu sa promesse. Presque 19h. Mauvais créneau pour des retrouvailles en cuisine.
Bah, elle reviendrait.
Elle s'éloigna rassurée, et, accoudée à son vieux Jeannot, admira son sourire dans toutes les vitrines du faubourg, jusqu'à l'angle de la rue Royale. Bien sûr, c'était hors de prix, pas toujours du meilleur goût, et souvent difficile à porter, mais n'empêche, elle le trouvait beau. Chapitre 4. Trop beau même. Bien trop beau pour être vrai. Vous y avez cru? Sérieux? Mais qu'est-ce que vous espériez? Qu'elle se pointerait le lendemain matin en sautillant? Qu'elle ferait appeler et qu'il, shabadabada, shabadabada, apparaîtrait dans un halo flouté, avant de courir vers elle au ralenti, avec les pigeons qui s'envolent et la caméra qui tourne autour? Allons, allons, bande de foule sentimentale, mais c'est dans les films, ça. Ou dans les livres que son ex abhorrait. Là, on était dans la vraie vie, hélas. Et notre rêveuse d'héroïne en était pour ses frais. L'entrée est interdite, les portes fermées et les caméras de surveillance. Bon, ça commençait à bien faire, cette histoire. Tout cela ne l'amusait plus du tout, et Mathilde Salmon, qu'on se le dise, en avait plein le cul de courir après un garçon. Les rôles de composition, ça allait 2 minutes. Elle s'est donc assise sur le capot d'une voiture, a changé de chaussures, sorti sa trousse de maquillage, noué ses cheveux, poudré ses joues, allongé ses cils, dessiné ses lèvres, parfumé sa nuque et roulé son blouson en tapon sur son porte-bagages avant de remonter la rue en roulant des hanches. Belle, sexy, pressée et archi-blindée de thunes qu'elle était, elle a ignoré les concierges, les grooms, les réceptionnistes, les porteurs de bagages, les soubrettes et les clients. Arrière, arrière menu fretin qui vous teniez sur son chemin. Elle a foulé une moquette épaisse comme son culot, longé des couloirs, ignoré les questions et autres remarques en russe et en anglais qu'on lui adressait au passage, arrangé sur ses épaules un boa invisible, cherché une salle de restaurant, contourné un aspirateur, souri pour la peine, visé les cuisines, poussé la porte et alpagué le premier venu. J'ai besoin de voir Jean-Baptiste immédiatement. Appelez-le moi, je vous prie. Chapitre 5. De qui? Vincent? Non, ton dédaigneux. Jean-Baptiste, je viens de vous le dire. Celui qui a les couteaux japonais. Ouais, ben, JB, ton dédaigneux, il ne travaille plus ici. Et d'un coup, Mathilde ne fut plus belle. Ni riche, ni sexy, ni fière, ni rien du tout. Elle ferma les yeux et attendit qu'on la fichât dehors en lui bottant le derrière. Déjà, un grand type à l'air pas commode s'amenait vers elle en s'essuyant les mains. « Mademoiselle, vous vous êtes perdue ?» Elle lui répondit que oui et lui indiqua la sortie. Mais comme ça se voyait comme le nez au milieu de sa triste figure, qu'elle était vraiment dans la dèche, et laide, et misérable, il a ajouté. « Vous le connaissez? Méfiez-vous, moi aussi je croyais le connaître et puis je me suis fait rouler quand même. » C'était un bon second, pourtant. Je lui ai dit d'ailleurs, Mais je sais pas quelle mouche l'a encore piqué, parce qu'il n'est pas commode, l'animal, hein.
Oh que non, pas commode du tout.
Depuis quelques semaines, il n'était plus à son métier. Il m'a fait connerie sur connerie et puis il est parti.
Vous savez où je peux le trouver ?
Non, j'en sais rien. Et je vais vous dire, je veux pas le savoir. C'est un sale coup qu'il nous a fait, là, en pleine saison, comme ça.
Ah, ça oui, je le retiens. Un matin, il s'est pointé et c'était plus le même. Plus rien l'intéressait. Il aurait même pas fait la différence entre une pastèque et un bulot, ce cabochard. D'abord, il a eu un arrêt de travail parce qu'il s'était brûlé, et puis bien encore, on a dû l'envoyer aux urgences, et quand il est revenu, c'était plus lui. Il n'arrivait plus à se concentrer. « J'ai plus le goût », c'est tout ce qu'il a trouvé à me dire. Il a vidé son vestiaire et il a pris son compte. Et pour vous aussi, la sortie, c'est par là. Et si vous le croisez un jour, dites-lui de me rendre mon grimoire, il comprendra.
Mathilde était en train de repasser devant les plantons de l'entrée et sentait qu'elle gênait à présent. Qu'elle devait presser le pas. Que cet accès, s'en souvenait-elle, était interdit à tout quêteur, démarcheur, colporteur et autres intrus étrangers au monde des repus.
Oust !
Elle se dirigeait déjà vers sa belle Aston Martin à la dynamo cassée, quand le jeune type qui l'avait le premier renseigné lui toucha le coude. « C'est vous ?»«
Pardon ?»«
La fille de l'Arc de Triomphe, c'est toi ?»
À la douleur que lui causa son sourire, elle réalisa qu'elle s'était mordu la lèvre jusqu'au sang.
« Je m'en doutais. Il est en province. Il a rembauché chez son oncle, à Périgueux. »«
D'où Jésus, Périgueux.
Et pourquoi pas l'Australie pendant qu'on y était ?»«
Il a un numéro ?»«
Je connais pas. T'as de quoi écrire ? Je vais te noter le nom du resto. C'est pas du tout comme ici, tu verras. Ça sera plus facile de le trouver. »
Elle consigna soigneusement ses instructions, puis leva la tête pour le remercier.
« Pourquoi tu me regardes comme ça ? » s'étonna-t-elle.
« Pour rien. »
Il tourna les talons et fit quelques pas avant de se raviser.
« Hé ! » !»«
Oui. » »«
Il y avait quoi dans ton sac exactement ?»«
Un atlas. » »«
Oh. »
Il avait l'air déçu.
Chapitre 6. Mathilde comptait repasser par chez elle pour prendre son ordi et sa brosse à dents.
Oh, et puis non. Ils avaient déjà perdu bien assez de temps. Elle hésita au premier feu rouge. Merde, Périgueux, c'était quelle gare déjà ? Montparnasse ou Austerlitz ? Bon, allez, petit empereur, puisque tu tiens la chandelle depuis le début, je vais te faire confiance jusqu'au sacre. Sur le plan tactique, on raconte que ce fut ta plus belle victoire, et moi, sur le plan tactique, je suis un peu dans les choux, là. Alors va pour Austerlitz. Hé, tu me plantes pas, hein ?
Elle arrima son vélo à un parapet et se dirigea vers les guichets.
« Le billet ?» lui demanda une Clémence débonnaire en gilet mauve. « Aller simple ou retour ?»
Oula, simple. C'était déjà bien assez compliqué comme ça.
« Désormais que du simple, s'il vous plaît. Et si possible, dans le sens de la marche, pour une fois. »